RCF.
Bonjour à tous et bienvenue au pied de la lettre, le rendez-vous avec la littérature sur RCF. La femme, le féminisme sont au cœur de cette rentrée littéraire. Tout le monde s'accorde sur l'émancipation des femmes, enfin à l'ordre du jour, mais dans les faits, comment les relations amoureuses, les libertés de chacun et la vie ensemble peut-elle s'organiser? Dans le roman d'Alice Fernet, tout va trop vite pour Alexandre. Il rêvait d'une famille unie, tranquille, et puis voilà que les événements, mais aussi les évolutions sociétales, bouleversent les relations amoureuses. Comment conjuguer l'épanouissement personnel et la quête d'un bonheur partagé? Intimité est publiée chez Actes Sud. Elena et Marianne sont sœurs et bien différentes, mais elles ont toutes deux confronté à la société en ébullition. Comment mener son existence quand on se trouve en décalage avec le monde dans lequel on vit? Prudence et passion est publiée chez Albin Michel. C'est le roman de Christine Jordis.
Au pied de la lettre, Christophe Hénin.
Bonjour Alice Fernet.
Bonjour.
Intimité, un magnifique roman, un polyphonique, foisonnant, un roman avec des portraits de femmes, un roman féministe. Je vous cite, hein, « La famille, c'est une vieille structure patriarcale qui concourt encore trop à l'asservissement féminin. » C'est un livre de libération.
Là, cette affirmation, et c'est celle d'un personnage particulier, puisque c'est une femme qui a fait le choix non seulement du célibat, mais de ne pas avoir d'enfant. Donc évidemment, la phrase est particulière. Je partage pas forcément cette opinion, mais je la trouvais intéressante au sens où c'est encore très vrai, très concrètement, que les femmes donnent beaucoup plus de temps au travail domestique, aux enfants que les hommes. Et donc, en effet, il y a une inégalité à l'intérieur de la famille dans la répartition des rôles et ensuite qui se retrouve dans les inégalités de carrière, de salaire. Donc la question mérite d'être posée, certainement, oui.
Sachant que cette question-là, vous l'abordez de manière très polyphonique. L'idée, c'est de donner aussi à voir et à sentir toutes les sensibilités.
Ben, en fait, je pense qu'on est quand même dans un moment d'incroyable bouleversement des relations, des structures familiales et du rapport entre les sexes. Et j'ai espéré, ou je me suis demandé si c'était possible de faire entrer dans une histoire romanesque le plus possible de problèmes liés à ces évolutions. Alors aussi bien la recomposition des familles, qui est réellement quelque chose qu'il faut réussir et qui peut être raté, toutes les questions liées au désir d'enfant, différence entre les sexes dans ce désir d'enfant, le désir des hommes. Là, il y a un film qui sort qui a fait tout un scandale avec Marina Foïs, mais c'est intéressant de s'interroger sur la liberté des hommes à vouloir un enfant, alors qu'ils peuvent beaucoup plus difficilement qu'une femme se passer d'une femme, elle qui peut se passer d'un homme. Donc ça, je trouvais ça aussi un sujet important. La question des nouvelles techniques de procréation m'intéressait beaucoup. Est-ce qu'on est à un moment où on va rendre équivalente le fait d'avoir un enfant de façon sexuelle ou au contraire de façon artificielle? Donc toutes ces questions m'intéressaient.
Toutes ces questions dans l'intimité, on va en parler dans quelques instants. Bonjour Christine Jordis.
Bonjour.
Alors vous êtes romancière, essayiste, éditrice, spécialiste de littérature anglaise. Il y a une filiation entre votre roman et celui de Jane Austen, Raison et Sentiment. C'est un clin d'œil, une reconnaissance de dette?
Non, pas exactement. C'est que, trouvant que le monde actuel, comme le disait Alice Fernet tout à l'heure, pose de problèmes multiples et nous plonge dans un chaos et nous prive de repères, je pensais à Jane Austen, dont j'ai préfacé pour l'édition Folio Classique deux ou trois romans, que je connais bien. Qu'aurait-elle dit cette femme, qu'on taxe de conservatrice et qui l'était à son époque, devant les soubresauts, la violence qui agite notre monde? Et je me suis dit, ça serait bien de prendre l'une de ses héroïnes, qui est Elena, que j'appelle Elena, donc, dans Raison et Sentiment, et de la plonger dans le monde actuel, non pas en gardant exactement, évidemment, le même type de société, mais en étudiant les contraintes auxquelles elles étaient livrées, et qui seraient maintenant, ces contraintes, devenues une liberté dont nous ne savons exactement que faire et qui parfois nous pèse. Voilà.
On va voir tout ça avec votre roman. Alors, des livres, des histoires, au pied de la lettre, il y a aussi une place pour la poésie avec Stéphane Bataillon qui nous rejoindra tout à l'heure. Chaque semaine, Stéphane nous propose un poème pour la route. Et puis, on retrouvera aussi un auteur malheureux dont le livre est sorti pendant le confinement alors que les librairies étaient fermées. Séance de rattrapage tout à l'heure. Alice Fernet, on entre en effet dans l'intimité de vos personnages, des hommes et des femmes d'aujourd'hui, traversés de désirs, de projets, d'émotions. Mais tout commence avec un drame, la mort de Ada.
Oui, ben j'avais très envie d'écrire sur les questions de procréation. Et je me disais, il y a une chose que je voudrais raconter, c'est un accouchement qui se passe mal. Parce que ça peut encore arriver. Et c'était une manière pour moi de rappeler la fragilité du corps. Je trouve qu'on est à un moment où on espère, on dirait qu'on peut s'émanciper du corps, qu'on peut s'affranchir du corps. On espère jusqu'au transhumaniste devenir même immortel. Et moi, je trouve que quotidiennement, on fait l'expérience du fait que le corps est bien là, le corps souffre dès qu'on le touche. Et la grossesse ou l'accouchement sont des événements où le corps féminin est extrêmement bouleversé. J'avais envie de l'écrire.
Et vous expliquez aussi, il y a l'accouchement et la naissance, mais c'est deux personnes différentes qui sont concernées.
Oui, c'est vrai. C'est une chose que j'ai un peu découvert ça en l'écrivant. Je me disais finalement, un anniversaire, c'est à la fois celui d'une naissance et celui d'un accouchement. Et en effet, deux personnes sont concernées. J'ai commencé par ça parce qu'en fait, j'avais très peur, j'avais beaucoup d'idées, je portais des jugements, mais je ne voulais pas que mon roman soit encombré par ça. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je l'écrive très librement et il ne faut pas que je prévoie ce que je vais écrire, dire. Et la manière que j'ai finalement trouvée, c'est de partir de cette scène originelle. Un couple part à la maternité en confiant l'aîné des enfants à la voisine. Et puis, la naissance se passe effectivement mal. Et ensuite, j'ai tiré ce fil-là. Et les idées me sont vraiment venues. J'ai pensé à un moment, c'est drôle, l'époque me dicte presque le livre. L'époque me donne les idées.
Ouais, il y a cette mère donc qui meurt dans l'accouchement, une petite fille qui naît, et puis le père Alexandre qui est un petit peu perdu parce que il se rend compte aussi qu'il y a la famille, l'homme, la femme et l'enfant. Et l'enfant qui prend une place, et l'enfant, à un moment vous expliquez que les enfants apportent le sentiment du temps et de la perte. On sent que tout le monde est entré justement dans une sorte de course du temps.
Mais c'est surtout que je réfléchis beaucoup à pourquoi est-ce qu'on veut un enfant ? Qu'est-ce que c'est avoir un enfant ? Quelles sont les joies qu'on espère quand on espère avoir un enfant ? Et quels sont en fait tous les sentiments qu'on découvre ? Parce qu'en fait, on ne le sait pas à l'avance. Et en particulier, certaines souffrances. Qu'est-ce qu'on fait de la souffrance de nos enfants ? Enfin, souvent, je me dis... Je me souviens qu'au mois de juin, j'étais très frappée d'entendre Adèle Van Redt qui, après son livre « La vie ordinaire », avait très souvent cette phrase « La maternité, je ne sais pas ce que c'est ». Et du coup, moi, je me suis dit « Bon, alors moi, j'ai l'impression quand même de savoir ce que c'est, mais ne t'autorise pas à croire que tu sais sans l'exprimer ». Et au fond, je me suis dit « C'est très étrange, c'est comme enfanter un être qui vous continue et qui vous continue presque charnellement. » Parce que d'ailleurs, j'ai lu dans des livres médicaux que des cellules fœtales restaient dans le sang de la mère pendant des années, voire même peut-être pendant toute sa vie. Donc ce serait presque...
C'est extravagant.
C'est-à-dire ça serait presque comme un lien éternel et charnel. Mais en tout cas, je suis frappée de voir que donner la vie à une autre personne... c'est vraiment être en lien continu avec elle au sens où ses joies sont immensément répercutées en vous et ses souffrances aussi. Et c'est aussi ça que j'ai voulu dire dans le livre. C'est-à-dire, c'est vraiment un partage des émotions qui est beaucoup plus fort qu'un partage d'émotions avec un étranger, même si l'empathie et la compassion existent. Ce lien avec l'enfant est plus fort.
Avec vraiment une différence entre le père et la mère, puisque là aussi, vous pointez bien que dans ce désir d'enfant, la femme joue sa vie, tandis que l'homme, il ne se lance pas plus que ça.
Il
a ce désir profond.
J'allais dire, cette, C'est ce que Françoise Héritier appelait l'extravagant pouvoir des femmes a eu pendant des siècles et même des millénaires un coût considérable qui s'est nettement amoindri, puisque le chiffre que je donne dans mon livre est réel, c'est-à-dire il y a 100 décès par an en France à peu près. Mais si on prend dans le monde, on arrive quand même à quelques millions, je pense, de décès, surtout dans certains pays sous-développés. Donc oui, bien sûr, il y a une inégalité. Je pense d'ailleurs, c'est ce que dit un de mes personnages, que c'est vraiment autour de l'engendrement et du rôle de chaque sexe dans la procréation qu'il y a une inégalité entre les sexes qui est difficilement réductible.
Alors, il y a plusieurs femmes dans votre livre. Il y a toujours Ada, donc la mère qui est décédée. Et puis, vous dites bien à un moment, les défunts ne nous lâchent pas, donc elle est présente au moins en filigrane sur tout le roman. Il y a cette figure féminine de Sandra aussi, la voisine, qui subitement se met aussi, est prise dans cette histoire.
Oui,
présentez-nous
parce qu'en fait,
Sandra libraire, célibataire.
C'est un personnage que j'aime beaucoup, oui. Elle m'a été inspirée par plusieurs femmes qui ont la parole aujourd'hui. Alors, je pense à Virginie Despentes, Lola Lafont, Peggy Sastre, des femmes très intéressantes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants et qui le défendent extrêmement bien. Et puis qui, par ailleurs, sont très militantes, féministes. Et je trouvais que c'est vraiment une figure féminine d'aujourd'hui, la militante féministe sans enfant. Donc j'ai créé ce personnage, alors, qui est intellectuel parce qu'elle vit au milieu des livres et qu'effectivement elle participe à un groupe féministe de travail qui s'appelle les Hérétiques, qui sont un groupe qui se veut capable de réfléchir à toutes les idées progressistes sans forcément s'en faire un catéchisme. Et il se trouve donc qu'elle est la voisine du héros du livre, Alexandre, et qu'elle va garder le fils aîné d'Ada pendant qu'Ada s'en va à la maternité, et ça crée un lien. Elle est du coup complètement embringuée dans cette histoire. Voilà.
Avec un lien, vous le dites, avec Alexandre, le père, qui est un lien d'amitié très fort et très... on sent quelque chose qui se noue, qui aide les deux peut-être à avancer.
En tout cas, qu'il les transforme l'un et l'autre. C'est assez intéressant parce que lui... mais je me suis... À un moment, quand j'ai commencé à avancer, justement, après le récit de l'accouchement, quand j'ai commencé à avancer dans l'histoire, je me suis dit, tiens, c'est amusant, je suis en train d'écrire les pérégrinations d'un homme d'aujourd'hui. Et donc, les personnages ont à peu près 40 ans, donc ce sont des gens qui sont nés en 80. Et je me suis dit, j'écris les pérégrinations d'un homme de 40 ans au milieu des femmes d'aujourd'hui. Et son épouse, qui d'ailleurs n'est pas son épouse, sa compagne, puisqu'elle n'a pas voulu l'épouser, qui met au monde cette petite fille, je la considérais pour moi
aussi
comme une féministe réconciliée, c'est-à-dire... D'ailleurs, le groupe auquel je me rattache assez bien, c'est-à-dire des femmes qui profitent de toutes les libertés qui ont été accordées aux femmes dans le combat féministe, en particulier celle de travailler, de gagner de l'argent, mais qui n'est pas dans la revendication permanente, qui, au fond, n'est pas offusquée par une différenciation des rôles à l'intérieur de la famille, qui adore faire la cuisine. Enfin, c'est un peu la femme parfaite, d'ailleurs, mais que certaines féministes militantes seraient capables de considérer, de prendre pour une sorte de collabo. C'est-à-dire, effectivement, tu collabores au patriarcat parce que tu es complètement d'accord pour assumer un certain nombre de rôles toute seule. La fameuse charge mentale dont on a beaucoup parlé. Et au contraire, Sandra, elle, c'est une femme qui réfléchit beaucoup à ces questions, a choisi de ne pas se marier et de ne pas avoir d'enfant. Donc en fait, imaginez un homme qui a l'habitude de relations avec une femme comme la première et puis qui tout d'un coup se retrouve en face d'une militante assez décidée. C'est ça qui arrive à Alexandre et c'est tout un monde qui s'ouvre à lui.
Alors Sandra, une militante très engagée, très décidée, qui réfléchit beaucoup à ces questions, mais au fil du roman, malgré tout, elle a aussi... Enfin, il y a des choses sur lesquelles elle ne transige pas, malgré tout.
Alors,
pas tout dévoiler non plus, c'est un peu compliqué.
Non, mais je trouve que c'est... Merci, parce que je suis frappée, effectivement, que beaucoup d'articles racontent tout, et c'est quand même dommage. Parce que, pour une fois, j'ai fait un gros effort, ou plutôt... Le fait d'avoir écrit sans savoir où j'allais m'a permis d'avoir des idées. Il y a des
Que les personnages vous entraînent
surprises. Voilà, on attend quelque chose et puis c'est pas ça qui vient. Donc c'est bien qu'on ne raconte pas tout. Mais je dirais que Sandra, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est elle ne fuit pas. Enfin d'ailleurs c'est aussi important parce que par exemple je suis pas du tout d'accord avec l'idée que les gens qui choisiraient de pas avoir d'enfants c'est un choix égoïste. C'est pas vrai du tout. Donc en fait c'est
là
une...
parce que voilà, pour le coup votre personnage est d'une grande générosité.
Voilà, c'est pas du tout une personne.
Une vraie présence.
Pour moi elle. D'ailleurs, à un moment, elle dit qu'elle a une telle conscience de ce que représente le fait d'être parent qu'elle s'en sent pas elle se sent pas capable de donner pour toujours ce qu'il faut donner. Mais ça ne l'empêche pas, d'être quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, elle va être présente, c'est-à-dire vraiment, ses voisins vivent un drame. Elle s'est engagée auprès d'un petit garçon qui, finalement, est très intéressant et lui plaît. Donc, elle va donner beaucoup, effectivement, à la famille qui est... perturbée par ce drame.
Alors on va évidemment pas tout révéler, mais on peut quand même dire que Alexandre, au bout d'un certain temps, il se dit que être tout seul, c'est pas vraiment ce qu'il préfère, et donc il voudrait rencontrer une autre femme. Et ça, c'est les moyens d'aujourd'hui, à travers un site de rencontre.
Mais
qui existe, d'ailleurs, j'ai vérifié.
Oui,
hein,
tout existe. Oui. Non, tout ce qui est écrit dans... Enfin, tout, j'ai vraiment eu... C'est un roman réaliste, c'est-à-dire c'est une vraie histoire, j'ai complètement inventé, je connais personne qui ait vécu tout ce que je raconte, mais les sites,
les
techniques de procréation, enfin, tout est réel. Tout existe vraiment dans notre monde et c'est ça que je voulais raconter. Je voulais raconter où est-ce qu'en est notre époque pour la rencontre amoureuse. On dit toujours il y a toujours eu un marché matrimonial, il était un peu implicite, il y a eu des mariages arrangés, etc. Aujourd'hui, comment ça se passe? J'ai été d'ailleurs passionnée par le livre de Eva Illouz qui est sorti au mois de, je sais pas, peut-être mars, février, La fin de l'amour, qui est un livre très intéressant de sociologie sur qu'est-ce que change Internet, le marché, les sites de rencontres, etc. Et moi, j'ai aussi voulu écrire sur ça.
Mais pour vous, justement, vous qui avez aussi parlé d'amour dans des romans très charnels, hein, dans vos œuvres précédentes, là, c'est aussi un choc de civilisation, presque.
Oui, bah c'est très étonnant. Moi, j'ai jamais utilisé les sites de rencontres. Et pour écrire le livre, c'était assez amusant parce que je suis allée sur plein de sites de rencontres. Et je m'arrêtais toujours au moment. Alors, je remplissais les cases, ne serait-ce que pour voir ce qu'il faut exprimer.
Ce qu'il faut donner comme information.
Voilà, exactement. C'est comme ça, par exemple, que j'ai découvert le nombre extravagant d'identités de genre et d'identités sexuelles. Mais je m'arrêtais toujours au moment où il fallait donner sa photo, son téléphone, son adresse. Donc j'ai pas joué le jeu jusqu'au bout. Mais ça me fascine absolument. Parce que justement, Sandra, le personnage de militante, a une théorie que je trouve, moi personnellement, qui m'intéresse beaucoup, sur le rôle du corps dans l'amour. C'est-à-dire vraiment le moment de la rencontre, elle considère que c'est le corps qui, le premier, exprime son attirance, sa répulsion, son désir ou au contraire son indifférence. Et donc, dans les sites de rencontre, le corps n'est pas là. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais extraordinaire. Je me dis, c'est de l'ordre de la rencontre d'abord fantasmatique. Et c'est une des choses qu'on découvre concernant les sites de rencontre. Beaucoup de gens n'y vont que pour vivre dans un espace fantasmatique et n'ont pas du tout
avec
besoin
des projections,
de concrétiser. Voilà. C'est très intéressant et je me suis beaucoup amusée à réfléchir à la simple procédure. Je trouve ça terrifiant d'avoir à se présenter, quelle photo on va mettre, qu'est-ce qu'on
à
va
se
mettre
vendre,
en avance. Oui, c'est très difficile.
Et puis, il y a malgré tout, hein, page 201, on ne va pas la lire, mais de très belles pages aussi sur l'incarnation, justement sur le charnel. Dans l'amour que vous écrivez. Alors là aussi, pour ne pas dévoiler comment ça va se passer, cette histoire, il y a une vraie tension tout le long du roman. On peut simplement dire qu'il y a aussi une approche de toutes les techniques de procréation, GPA, PMA et autres, que vous abordez. Là aussi, c'est tout un monde que vous avez voulu dépeindre. Peut-être découvert.
Alors en fait, j'ai voulu écrire sur. J'ai été très. J'ai beaucoup réfléchi au nouveau concept de stérilité sociale. Et je me disais, c'est fou parce qu'on est un.
Expliquez-nous, hein, oui.
Oui. On est la première époque dans l'histoire de l'humanité où il existe deux manières de faire les enfants. Sexuelle, une manière habituelle sexuelle et puis une manière artificielle avec la technique.
Scientifique.
Voilà, exactement. Et le concept de stérilité sociale se définit, si vous voulez, concerne des gens qui ont des choix sexuels non procréatifs. Donc, par exemple, l'homosexualité, le couple homosexuel est stérile, mais non pas stérile au sens infertile médicalement, stérile socialement. C'est-à-dire son choix de vie ne permet pas la procréation. Et si on met de façon, si on tient pour équivalent les deux façons de faire des enfants, ben on va considérer qu'un couple stérile socialement peut avoir des enfants par la technique médicale. Et ça, j'avais très envie d'écrire sur ça. Et pour pouvoir y réfléchir vraiment, je me suis dit, il faut prendre un couple absolument, comment dire, pas une minorité, il faut prendre un couple hétérosexuel fécond, a priori, et se dire, voilà, ils ne veulent pas avoir de relations sexuelles et en même temps, ils veulent avoir un enfant. Donc, j'avais envie d'écrire sur un couple qui...
On sépare la sexualité
et
la maternité.
Voilà, c'est ça, exactement. Et c'était ça, une de mes idées. Pour réfléchir, pour voir l'effet que ça fait, si vous voulez. Voilà.
Et ça donne ce personnage, d'Alba, qui est rencontré par
Alexandre. Ça donne ce personnage d'Alba qui est extraordinairement moderne au sens où elle a fait des choix. Elle a fait un choix très singulier par rapport à la sexualité. Elle le défend, objectivement. Moi, je trouve qu'elle le défend merveilleusement. C'est-à-dire que c'est totalement fondé. En théorie, c'est imparable, on pourrait dire.
C'est réfléchi.
On comprend très bien. Par ailleurs, je la trouvais très intéressante. Son discours sur la sexualité est très intéressant parce qu'il nous fait aussi réfléchir à toutes les forces obscures et à la violence que contient la sexualité. Violence qui a toujours été reconnue par toutes les civilisations et du coup, bien sûr, on a toujours réglementé la sexualité. Et elle fait réfléchir à ça, c'est-à-dire au fond, elle refuse la violence de la sexualité. Et c'est très argumenté. En ce sens-là, je la trouve très moderne parce qu'on est frappé justement par la multiplicité des discours de revendication qui sont extrêmement bien charpentés, mais qui se heurtent un peu à la réalité. C'est-à-dire, au bout du compte, quand il s'agit de vivre ça, qu'est-ce qu'il en est ? C'était ça aussi les questions que je me posais.
Un personnage qui nous emmène très loin et en même temps très attachant parce qu'il y a une forme de fragilité malgré tout.
Ah oui, c'est pas du tout une brute, non, au contraire, c'est quelqu'un qui a une idée, elle est de toute façon, c'est un personnage qui est très rigoureux, hein. Elle est agrégée de grammaire, c'est une grosse travailleuse, donc elle a du coup des discussions avec Sandra qui sont très argumentées. Et ça, je trouvais ça effectivement très intéressant. Malgré tout, elle a des désirs, elle a des sentiments, elle n'est pas du tout... c'est pas une brute.
Christine Jordis, vous avez lu L'Intimité, et puis vous écoutez depuis tout à l'heure Alice Fernet nous en parler avec passion. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la lecture de ce livre ?
Eh bien, moi, je suis tout à fait en accord avec ce que dit Alice, en ce sens qu'il ne faut pas prendre parti, tout au moins au départ, parce qu'on sent... à la fin de son livre, malgré tout, tout de même, où va son cœur et son adhésion. Mais tout ce qu'elle dit des processus modernes de mise au monde, enfin, et surtout d'engendrement, on ne peut que le suivre. C'est vrai que la technique a pu remplacer le plaisir. Alors, on peut s'interroger, et on doit s'interroger sur la question, sans toutefois prendre parti trop violemment. À l'heure actuelle, sur la GPA, on voit une montée de boucliers très violente. Mmh. Et on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il y a quand même la marchandisation du ventre de la femme. Et tout ce que dit Alice dans son livre sur le bel esprit de sacrifice et de don...
Des mères porteuses.
Et oui, des mères porteuses, exactement. On peut le mettre en doute quand on sait que derrière, il y a quand même une idée de profit et de la part de ces femmes, de ces mères porteuses, une pauvreté essentielle qui peut les obliger à ça. Donc, toute cette discussion que mène Alice, j'y souscris absolument. Mais aussi, ce que j'aime bien, c'est la méthode, c'est-à-dire de passer par des dialogues qui sont finalement des confrontations d'idées, sans prendre parti. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon propre livre, mais pas tout à fait de la même façon. Mmh. Et il ne s'agit pas du même sujet. mais je trouve bien de ne pas donner au départ une opinion trop radicale et trop tranchée, de façon à pouvoir comprendre jusqu'au bout la position de chacun des personnages. La pauvre Ada qui meurt, la pauvre femme hétérosexuelle qui meurt, j'étais très triste. Mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Sandra, parce que elle a des arguments très forts pour être féministe, mais féministe au meilleur sens du terme. Elle n'est pas Me Too, elle n'est pas dans la revanche,
elle n'est pas contre,
ni dans l'excès.
Elle est vraiment pour.
Oui. Elle n'est pas contre. Elle essaie de comprendre, et surtout elle aime. L'amour chez elle est plus fort que toutes ses théories. Elle aime l'enfant dont elle s'occupe. Et elle ne veut pas d'enfant elle-même, mais elle sait ce que c'est d'aimer un enfant. Voilà, ça, je trouvais ça bien.
Oui, elle est capable d'amour. Oui, parce que je pense que, surtout, elle ne veut pas enfermer la femme dans un rôle de victime, ce qui est quand même... je trouve un des écueils de
ah oui, c'est
insupportable. Et de la stigmatisation masculine. Moi, je pense que les femmes ont un pouvoir. Alors, effectivement, Bourdieu disait les hommes ont le pouvoir officiel, les femmes ont le pouvoir officieux. Comme j'écris sur, justement, l'espace intime, c'est facile de montrer que les femmes ont un pouvoir, et je le crois vraiment.
Alors, on va écouter Stéphanie Gallet qui va lire un extrait de votre livre, justement, quand Alexandre tombe amoureux.
Il se sentait poussé en avant par cette énergie heureuse. Sandra avait raison. Il n'avait pas fait l'effort de s'inscrire sur un site pour laisser tomber maintenant qu'il avait fait une touche. Il suivit le chemin déjà tracé. Il téléphona, proposa, invita, organisa. Il exploitait la richesse culturelle du réseau parisien, les galeries d'art et de photographie avec lesquelles son métier et ses goûts l'avaient longtemps mis en contact, les musées, les théâtres, salles de concert, restaurants et cinémas. Contrairement à certains Parisiens, il connaissait sa ville comme sa poche. Il retrouva sa passion de tout voir et découvrit qu'Alba l'avait en partage. Dans ce sursaut volontaire, il l'entraînait, tressant une intimité amoureuse. Il n'était plus tout à fait le même homme, son cœur n'était pas neuf, une cicatrice l'écorchait vivement. Il avait charge d'âme, mais la chimie des sentiments le galvanisait. Il éprouvait le mélancolique sentiment de retrouver le vif argent de la jeunesse. Cette impression de revivre le commencement de l'amour avec une conscience plus élaborée était grisante. On retrouvait, identiques, les premiers émois, l'étrangeté de l'autre les recréait, la découverte qu'on faisait de lui. La chorégraphie des commencements se renouvelait dans une autre histoire. Timidité, sollicitude et cette manière appuyée de s'intéresser aux préférences de l'autre et de vouloir lui faire plaisir. L'égoïsme naturel s'interrompait, du moins se détournait dans une de ses expressions à deux, un de ses déguisements les plus flatteurs.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège, ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ça veut-il que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne sauras pas mon centre. Que savent-il de mon ventre? Pense-t-il qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non.
Non, tu n'as pas de nom, c'est Pauline Julien qui chante cette chanson écrite par Anne Sylvestre, au pied de la lettre avec Alice Fernet pour L'Intimité, paru aux éditions Actes Sud, et Christine Jourdis pour Prudence et Passion chez Albin Michel.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Christine Jourdis, deux sœurs, Elena et Marianne, si proches et si différentes, elles vivent à notre époque, mais est-ce qu'elles ne se sont pas un peu trompées de siècle ?
J'espère que non. Ce que j'ai voulu faire, et qui n'était pas facile d'ailleurs, c'est prendre ces deux héroïnes du roman de Jane Austen qui s'appelle Raison et Sentiment, et transposer évidemment le vocabulaire, sinon le style de Jane Austen, dans une époque qui est la nôtre, et voir comment, avec les qualités dont les dote Jane Austen, elle se tire d'affaire. Car nous vivons dans une époque, à mon avis, de grand conformisme de pensée. On peut parler d'une doxa ambiante à laquelle beaucoup de gens et beaucoup de médias se plient. Or, Jane Austen donne à ses héroïnes la faculté de se retirer en elle-même, tout au moins Elena, dans Raison et Sentiment, de se retirer en elle-même pour essayer de voir clair, justement de ne pas céder aux contraintes qui sont exercées sur elle, de ne pas céder aux opinions et à la mentalité qui pourraient les enfermer et les déterminer, mais dans la solitude, qui est une chose très dure à supporter, de trouver leur propre voie. Et ce qui m'intéressait dans cette démarche de Jane Austen, c'était justement la faculté de se retrouver, soi, en dehors des influences. Nous sommes donc assez loin des problèmes de la femme en particulier, mais nous sommes proches, je crois, des problèmes que tout un chacun pourrait se poser dans une société où le conformisme est écrasant.
Parce que c'est presque... Il y a à la fois, effectivement, ces parcours de femme, et puis un vrai roman, j'ai envie de dire, social. Vous nous décrivez la situation d'aujourd'hui où chacun se cherche, où tout le monde réclame d'une certaine manière. Et il faut vivre malgré ça dans ce décor qui est rude, tendu.
C'est ça. Il faut y vivre. Et le fait d'être femme n'arrange pas les choses, mais ne les empire pas. Car je crois effectivement que la femme a un pouvoir. Et tout au moins, elle a le pouvoir de penser, de se retirer en elle-même et de résister. Et de même, elle a le pouvoir d'agresser et d'offenser. Or, mes héroïnes représentent ces deux pôles. Il y a d'une part Elena, qui représente la raison, donc comme J.J. Austin, qui regarde et qui participe à ce qui se passe, mais en refusant beaucoup de choses, parce qu'elle ne les trouve pas justes, parce qu'elle ne trouve pas vraies et qu'elle cherche avant tout la vérité. Et puis il y a Marianne, sa sœur, qui au contraire agit sous le coup de la passion. Et à l'heure actuelle, il est vrai que la plupart des réactions que nous avons sur les réseaux sociaux et autres sont sous le coup de l'émotion. Donc nous avons raison et passion, raison et émotion, et Marianne, qui est un personnage à part entière et pas seulement un stéréotype, incarne la force de l'émotion et me permet, dans les débats d'idées qu'elles agitent, de montrer ce qu'est justement des réactions dépendant de l'instinct, de la passion, de notre premier mouvement, tandis que Elena, elle, essaye plutôt d'avoir un second mouvement qui est celui de l'objectivité. Vous voyez, qui est celui de la pensée, qui est celui qui pourrait nous diriger et devrait nous diriger, je crois, si on ne se laissait pas aller, comme sur les réseaux sociaux, à ce qui est le plus instinctif dans l'âme humaine.
Mais moi, c'est leur différence, hein, parce que c'est leur différence. Elena, on sent qu'il y a une sorte de maîtrise, de sagesse chez cette jeune femme. Chez Marianne, il y a une fougue, une présence. Vous écrivez aussi. Il y a de la beauté à oser.
Oui, parfaitement. J'essaye de voir les avantages des deux. La sagesse d'Elena, on a la peine à y croire parce qu'elle n'a après tout que 20 ans. Et à 20 ans, quand on a 20 ans, on associe à cet âge en général l'impulsivité, l'insolence et même certaines agressions envers les parents. Elle n'a rien de tout ça. Elle est sage de ce qu'elle sait sans jamais l'avoir appris. Et là, je suis Jane Austen. Alors évidemment, les anglicistes pourraient être étonnés, mais je crois ça. Je crois qu'il y a des gens qui ont une sagesse instinctive. Elle, c'est le cas. Et Marianne, au contraire, a cette beauté, et Jane Austen l'appréciait aussi, ça, son personnage de Marianne, a cette beauté d'oser tout, de ne pas se soucier de ce que va dire son entourage. Mais en même temps, cette beauté peut nuire, elle peut choquer l'entourage. Or, mon Elena ne veut pas choquer. Elle croit qu'on doit donner à l'autre la place qui lui revient, qu'on ne doit pas l'empêcher de parler, de s'exprimer par la force de ses propres émotions, mais qu'on doit écouter. Toute sa sagesse est dans le fait qu'on doit écouter et pas seulement se répandre en invective et en agression, alors qu'à l'heure actuelle, c'est souvent ce qui arrive. Regardez, et c'est la petite critique que j'essaye de faire. Je dis petite, elle est grosse. C'est que souvent, les mots, un seul mot, vous dites conservateur, vous dites droite, et ça déchaîne immédiatement, plutôt qu'une écoute et une volonté de comprendre, un blâme, des insultes et une catégorie infamante, un sac fourre-tout dans lequel on vous met. Bon. Alors ça, moi, évidemment, je ne suis pas pour ça. Je pense que la tolérance, celle d'une Elena, celle d'une Jane Austen, sont quand même des vertus nécessaires à la vie en société.
Mais en même temps, alors, ces deux femmes, elles sont aussi amoureuses, l'une d'Edouard, l'autre de Raphaël, qui veut faire de la politique. Là, pour les deux hommes en prennent un peu pour leur grade, hein, malgré tout. Parce que,
Vous trouvez ? Oh, moi, j'étais très contente l'autre jour parce que j'ai eu un coup de téléphone dimanche d'un ami dont je crois qu'il serait absolument opposé à ce que je disais et qui me dit, vous savez, moi, alors que c'est un type extrêmement brillant intellectuellement et plutôt à l'avant-scène, et il me dit, moi, ce que j'aime, c'est le personnage d'Edouard. Or, Edouard, que j'ai été chercher dans Jane Austen, c'est un type qui est complètement modeste, qui n'est pas très beau, qui n'est pas très intelligent, mais quand même intelligent, raisonnablement, et qui
enseigne.
N'ose trop rien dire. Il est dans les débats à l'université où il va devenir enseignant puisqu'il fait... Il prépare un concours, comme Raphaël d'ailleurs, l'amoureux de Marianne. Donc ils sont là tous les deux étudiants, mais d'un avis évidemment très, très opposé. Et Édouard se tient à l'arrière-plan toujours, c'est un homme de modestie, ça n'est pas un homme qui va se lancer dans la politique.
Il ne va pas se lancer dans l'amour non plus d'une certaine manière.
Il ne veut pas se lancer dans l'amour, mais on verra qu'il a un fil à la patte, comme on disait dans le temps. Mmh. Et ce fil à la patte, c'est que depuis longtemps, il a une maîtresse cachée. Pourquoi d'ailleurs cachée le roman le dit, mais je ne vais pas donner toutes les clés du roman. Et de ce fait, il n'ose pas vraiment aimer Elena alors qu'il l'aime profondément. Il est retenu dans l'aveu de ses sentiments. Et elle... fait durer cette amitié parce qu'elle trouve beaucoup de plaisir au non-dit, à l'adoration qu'il lui porte, mais en quelque sorte en sous-roche. Et comme elle est quelqu'un de très retenu, elle trouve du bien-être, un espèce de confort moral dans cette relation, tout en désirant évidemment qu'un jour ou l'autre il se déclare. Et elle ne comprend pas pourquoi il n'est pas plus ouvert, il n'a pas de geste envers elle.
Mmh. Et Raphaël, pour le coup, lui, il déclare que, justement, ça suffit parce qu'il a des ambitions politiques et que la belle Marianne, eh bien, elle ne correspond pas à son projet
politique. Oh là là, mais là, vous galopez dans le roman.
Bah oui, il nous faut quand même...
Ça va prendre beaucoup de pages. Ça va prendre beaucoup de pages, tout ça.
Ça va prendre beaucoup de pages, mais je veux dire, je reviens à ce portrait des hommes qui sont un petit peu, en tout cas, provocateurs, falots dans leur comportement, non ?
Ah mais falots. Oui, falots, sans doute. Mais après tout, il n'y a pas que d'une disgrâce à être falot. Il y a une volonté de rester à l'arrière-plan et de ne pas vouloir être le centre du monde. Or, des gens qui veulent être le centre du monde, c'est très fatigant. C'est comme les gosses. C'est touchant chez un gosse, ça a beaucoup de charme. Chez un adulte, ça peut être très gênant. Or, Édouard, justement, c'est un homme d'honneur. Il n'est pas du tout d'honneur. Ça paraît très démodé, mais c'est quand même un homme d'honneur. Il n'est pas du tout livré entièrement à ses désirs. Tandis que Raphaël, qui est beau, qui est séduisant, encore une fois, comme le personnage de Jane Austen, et qui tombe toutes les femmes, est forcément amoureux de Marianne. Marianne qui est la beauté même, l'éclat et la vivacité. Or, Raphaël est un écologiste, ce qui me permet de développer un petit peu le terme de l'écologie, qui, comme le disait Ésope de la langue, est la meilleure et la pire des choses. L'écologie, il en faut. Mais aussi, il faut une modération et une sagesse, là encore. On les a traités de Khmer vert, les écologistes, ils n'aiment pas ça, mais c'est parfois vrai. Donc, mon Raphaël est un homme ambitieux qui veut faire de la politique, qui se rattache au parti des écologistes et qui va monter peu à peu et en chemin larguer cette pauvre Marianne qui n'a pas les relations voulues pour lui permettre de monter assez haut. Voilà.
Mmh. Alors, bon, ça montre aussi, hein, et c'est ce que vous soulignez, que l'influence de nos amours va aussi marquer la façon dont on va percevoir l'actualité. Ça qui est intéressant, c'est que la sphère privée, finalement, elle est malmenée, peut-être, ou en tout cas, elle est liée à l'actualité, à la sphère publique.
Mais bien sûr, parce que des jeunes qui vont faire leur chemin et qui doivent choisir et qui sont menés par leurs désirs ou au contraire certaines contraintes intérieures vont se laisser toucher, sont forcément atteints par l'actualité, de même que nous nous le sommes. Je veux dire, on ne peut pas dire que nous soyons indifférents, même si nous ne modifions pas nos vies pour autant, à tout ce qui se passe autour de nous, aux partis, à la politique et aux partis qui s'agitent, non plus que au débat d'idées qui souvent nous indigne, vous voyez. Mmh. Et c'est très difficile de garder son quant à soi dans tout cela. Et mon livre se veut, en dehors même des débats d'idées que je vous expose et du roman d'amour qui existe et qui est repris donc à Jane Austen, il se veut une forme de philosophie de la vie, parce que ce qu'exprime Helena, c'est une façon d'être au monde en se gardant de ce qui pourrait vous atteindre et peut-être vous démolir. Un certain retrait, un certain recul intérieur, une manière de souffrir en silence sans accabler les autres, sans en respectant l'autre, car quand même ce respect de l'autre est une chose essentielle. On parle toujours de droit, mais le respect que réclament les gens le donne-t-il vraiment à tous? Et vous voyez, tout cela influe sur notre vie privée, évidemment. Ça influe sur l'être que nous sommes, sur notre bonheur ou notre malheur intérieur. C'est quelque chose de très important, ce climat moral, spirituel ou non d'ailleurs, intellectuel, dans lequel nous vivons.
Et puis vous soulignez bien un moment, il ne faut pas trop demander à la vie et aux autres, en même temps ne pas en désespérer. Alice Fernet, vous avez lu Prudence et Passion. Qu'est-ce que vous avez retenu du livre de Christine Jordis?
Je trouve, déjà, ce qui m'émerveille, c'est quand même la présence de Jane Austen. Je me souviens qu'il y a quelques années déjà, Jeffrey Eugenides, qui est un merveilleux écrivain américain, a écrit un roman qui s'appelait Le roman du mariage et qui était pareil, une réécriture de Raison et Sentiment. Mais lui avait une théorie amusante et que j'ai encore mieux comprise en lisant le roman de Christine, qui était que autrefois le mariage c'était la conclusion, l'aboutissement du roman, alors qu'aujourd'hui, le mariage serait plutôt qu'est-ce qui se passe après le mariage qui est intéressant. Et c'était ça qu'il écrivait. Je dirais aussi que j'ai pas cette vision de Jane Austen absolument conservatrice, au sens où quand même, elle a eu le courage de refuser un mariage alors qu'elle était extrêmement pauvre. Elle est restée célibataire, et tout simplement parce que l'homme ne lui plaisait pas. Et elle a gagné sa vie en écrivant des livres, ce qui était à peu près la seule manière pour une femme à cette époque d'écrire des livres, et de gagner sa vie. Et ce qui m'a frappée en lisant le roman de Christine, c'est un défi presque impossible, au sens où je me demande s'il y a un siècle qui est plus éloigné de nous que le 19e. C'est-à-dire, au fond, nous nous sommes constitués en réaction, enfin la libération, mai 68, c'est vraiment la fin du siècle bourgeois. Or, Jane Austen écrit vraiment sur ça, la société bourgeoise, les règles bourgeoises, l'assujettissement des femmes. Et alors du coup, quand on lit le roman de Christine, alors d'abord, si on connaît bien Raison et Sentiments, c'est merveilleux de retrouver Edouard.
Les tensions, les sentiments,
ça m'a vraiment
les liens entre les personnages.
Elena et Marianne... qui sont effectivement des personnages qu'on peut faire traverser le temps. Mais en même temps, j'arrêtais pas de penser justement à ce qui nous séparait de ce siècle. Par exemple, pour moi, je les aurais pris trentenaires, parce qu'aujourd'hui, les questions que se posaient Helena et Marianne à leur époque, à 18 ans, 20 ans, on se les pose beaucoup plus à 28. Enfin, c'était merveilleux de pouvoir prendre la mesure des écarts entre le 19e et aujourd'hui.
Alors, je vais répondre deux choses.
Rapidement.
C'est que, d'une part, il ne s'agit pas de Jane Austen dans sa personnalité, qui, évidemment, n'était pas une femme type de son époque, puisqu'elle était écrivain, ce qui est quand même tout à fait particulier, mais qu'il s'agit de ce qu'elle expose dans ses romans. Et ce qu'elle expose dans ses romans, c'est tout au long ce qu'on appellerait le conservatisme, c'est-à-dire l'amour de ce qui est, de la tradition, de l'ordre et de ce climat d'ordre dans lequel nous pouvons être, sinon heureux, tout au moins le moins malheureux possible. Donc ce que j'ai voulu, c'était ça, c'était montrer ce que c'était que le conservatisme, peut-être au sens anglais du terme, au sens où elle le montre dans ses romans, et non pas dans le sens de sa vie à elle, qui certes ne l'était pas. La seconde chose, c'est que je n'ai pas voulu non plus, comme vous le dites, nous sommes très très loin du 19e et même à l'opposé, c'est pas ce qui m'intéressait de montrer le 19e siècle à l'heure actuelle, puisqu'il n'existe plus, il y a un écart abyssal entre les deux. Mais beaucoup plus le comportement d'une femme qui essaye de se garder, de se préserver de l'influence extérieure. Comment se garder soi, comment trouver son indépendance et sa vraie personnalité, comment être soi-même, comment être en son centre, si tant est qu'on ait un centre, dans le monde où le conformisme vous gagne dans tous les sens. Car il est indubitable qu'on est de façon insidieuse influencé par ce qu'on entend à longueur de temps, par des mots qui reviennent, diversité heureuse et tout ce que vous voulez. Bon, comment faire pour rester soi-même? Et c'est ce qui m'intéresse, c'est Jane Austen, c'est cette moralité-là. Non pas, encore une fois, la différence de mœurs entre le 19 et le 20e, et le 21e, mais cette philosophie de la vie qui consiste, comme une boussole, à indiquer la bonne direction, alors que tout le monde autour tourne en rond dans une espèce de folie, et ne trouve pas sa direction personnelle. C'est cela qui m'a intéressé. Beaucoup plus un comportement qu'une question de siècle.
On va écouter un extrait de votre livre lu par Stéphanie Gallet. A-t-on besoin d'un mari quand on est femme aujourd'hui ?
Tu sais, Marianne, je ne crois pas qu'on puisse faire dépendre tout son bonheur d'un homme. C'est vrai, nos jours, les femmes veulent être indépendantes et gagner leur vie. C'est mille fois mieux qu'avant, quand il n'y avait de ressources et d'avenir pour elles que dans le mariage et la maternité. Mais tout de même, cela ne leur suffit pas, la carrière. La vie professionnelle non plus, quand il n'y a pas vraiment de carrière, c'est-à-dire pas de changement ni de progression, mais qu'on se traîne difficilement d'un petit boulot à l'autre. Cette vie de galère, pas d'argent, pas de plaisir, la crainte du lendemain. À deux, on s'en sort mieux. Alors les femmes regardent tout de même du côté de l'homme. Il leur faut aussi, et peut-être surtout, se marier ou se paxer ou se trouver un compagnon. Mais ce besoin-là, on ne l'avoue pas volontiers, pas à l'époque de la libération de la femme. Et puis un jour, elles ont envie d'avoir des enfants. Aimer et être aimé, tout le monde en a envie. Sortir de sa solitude, normal, me diras-tu. C'est bien mon avis.
Jane Austen's Door, chantée par Steve Hackett, le guitariste de Genesis, était en 1998 au pied de la lettre. Aujourd'hui avec Alice Fernet pour L'Intimité, paru aux éditions Actes Sud, et Christine Jourdis pour Prudence et Passion chez Albin Michel.
Au pied de la lettre, RCF.
Et si on donnait une seconde chance au roman paru durant ce premier semestre 2020, frappé par cette épidémie du Covid-19? Fanny Chenel, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez écrit La Relève qui est sortie ben, justement pendant cette période un peu étrange hein, que nous avons traversée, qui n'a pas été tout à fait favorable au livre. Alors, vous avez écrit La Relève, paru chez Flammarion. Ben, parlez-nous de votre roman pour le faire revenir dans la course de cet automne.
Dans la course, c'est le mot parce qu'il s'agit d'un adolescent qui est fauché en plein vol, en quelque sorte. Il se réveille un matin, il a une paralysie soudaine, inexpliquée. Il n'arrive plus à bouger la jambe et littéralement, il n'arrive plus à se lever. Et à partir de là, commencent les explorations fonctionnelles et l'errant diagnostic autour de ce mal-être, de ce malaise que traverse l'adolescent. Et il va vivre un hors-temps au cours de son parcours de rééducation qui va être le vecteur d'une émancipation et d'une renaissance finalement salvatrice. Voilà. C'est un livre sur la pression plus généralement que peuvent subir les adolescents, la difficulté à s'orienter aussi et le malaise adolescent en général.
Voilà, et puis il y a la place très importante de la mère, mais aussi des copains, des camarades.
Oui, qui sont... c'est toute une... Alors, la relation avec la maman est... La relation avec la maman est déterminante parce que elle est extrêmement fusionnelle et c'est ce détachement progressif que va réussir à accomplir cet adolescent qui va être la clé de son émancipation. Effectivement, toute la galerie de personnages assez que va rencontrer César, donc qui s'appelle César, notre héros, au cours de son parcours de rééducation et qui sont aussi qui tous incarnent qui sont aussi le symptôme parfois d'une angoisse de notre société et en même temps qui sont des personnages combatifs et solaires à bien des égards.
Ça veut dire qu'à 15 ans, on a l'avenir devant soi.
Clairement, oui. Un drôle d'avenir, mais un avenir quand même et un avenir à réinventer. Et les réponses qu'il propose sont sacrément inattendues, mais très, très riches et intéressantes et à entendre, en tout cas.
Voilà, ça s'appelle La Relève, c'est paru chez Flammarion. Merci, Fanny Chesnel.
Merci à vous.
Au pied de la lettre, présenté par Christophe Hénin.
Et maintenant, une petite page de poésie avec Stéphane Bataillon.
Bonjour Christophe. Stéphane.
Alors aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir la poésie de Jacques Josse.
Jacques Josse, qui aime beaucoup la mer, qui aime beaucoup les embruns, et qui nous emmène dans une taverne d'hier ou d'aujourd'hui, voilà, à la rencontre de marins qui rêvent.
Un vent de poésie.
Le soir sur zone, la jetée n'est pas un bar comme les autres. La veilleuse gamberge sur lit de varech. Risée molle, encartant de Brest à Bahia Blanca, ses flots raclés par les lèvres ocres des buveurs de rhum. Aux aguets derrière les spasmes, d'une lampe on devine dans les orties l'échine du horn qui déchire l'horizon.
Voilà, donc on se trouve, hein, là, vous nous entraînez, on y est presque.
On part presque.
On est dans cette ambiance de port,
de
bord de mer.
Voilà.
Voilà, vision claire.
D'un semblant d'absence au monde, donc c'est de Jacques Josse.
Très beau titre.
Beaucoup, beaucoup de recueils de poésie et aussi des romans, des proses brèves, toujours souvent sous ce thème-là de la mer. C'est publié dans la collection L'Or Piment chez Le Régalard.
Merci Stéphane Bataillon. On se retrouve la semaine prochaine. Vous venez encore nous faire découvrir
un nouveau voyage,
morceau de poésie. Voilà la poésie qui est aussi dans les romans, dans l'écriture. Alice Fernet, vous avez abordé à la fois cette histoire, ce roman de personnages, mais aussi les questions éthiques. C'est aussi un peu le rôle de la littérature de se pencher sur les questions qui traversent la société.
Je dirais pas, je prêterai pas comme ça un rôle à la littérature, mais je me dis que c'est impossible d'écrire des fictions, des romans, sans être effectivement, à la fois frappé, habité, révolté, interrogé par le discours ambiant, c'est-à-dire qu'effectivement, les représentations collectives évoluent et on est témoin de cette évolution. C'est-à-dire, en particulier, plus on vieillit... Moi, j'ai souvent cette idée de la vie comme... Il y a des tas de choses qui nous apprennent à mourir, c'est-à-dire on perd notre force, on se transforme et on n'a pas la même vitalité au fur et à mesure de la vie. Et puis le monde aussi change et quelque part c'est plus le monde de notre enfance, donc peut-être on l'aime de moins en moins. Et tout ça nous aide un jour à mourir. Et donc l'écrivain au fil de sa vie peut-être... En effet, se poser des questions sur l'époque dans laquelle il vit et qui n'est plus celle dans laquelle il est né, c'est possible. En tout cas, on est obligatoirement pris dans l'évolution des choses.
L'époque dans laquelle on vit, c'est cette épidémie qui est présente même, Christine Jordis, dans votre roman.
Oui, bien sûr. On le disait tout à l'heure, on ne peut pas faire abstraction de l'époque dans laquelle on vit. Je trouve néanmoins que d'être totalement fixé à cette époque, au point justement de ne pouvoir s'en détacher et appartenir à d'autres époques, est un petit peu dommage. Et la littérature, au meilleur sens du terme, est justement celle qui nous donne en miroir notre époque, mais aussi qui nous rattache à une tradition, à un mode de pensée, à un mode d'être, qui étaient les nôtres, qui le sont un peu moins, mais qui demeurent en nous. Moi, je cherche dans la littérature, dire ce qui est éternel, ça paraîtrait enflé et ridicule, mais je cherche tout de même ce qui me permet de vivre, non seulement l'idée de vieillir et de mourir, mais un accès au monde aussi large, aussi ouvert, aussi, pénétré d'amour que possible. Que la littérature me donne ça, c'est ce que je lui demande, en plus de la beauté. Pour moi, écrire, c'est aussi beaucoup l'écriture, la force de l'écriture. Car je peux lire un roman qui traite d'un thème en principe intéressant, s'il n'y a pas la force de l'écriture, je m'ennuie. Je ne dirais pas qu'un roman tient uniquement par l'écriture, mais la littérature, c'est quand même ça. C'est quand même une transposition dans les mots. Et je trouve qu'il faut parler de ça, parce que ça fait partie de la beauté. Et la beauté est ce qui nous nourrit. Voilà, je fais un petit peu d'emphase autour de la littérature, mais c'est ce que je pense vraiment. Elle ne peut pas être totalement collée au monde actuel non plus. Le monde actuel est ce qu'il est, on y réagit, mais nous avons en nous d'autres appels et d'autres aspirations.
Ce qui vous a permis quand même de rester sur cette actualité en mettant un petit peu de Covid dans votre roman.
Moi, je suis restée sur l'actualité, et qui encore une fois est évidemment différente du 19e. Je n'avais quand même pas l'idée stupide de vouloir coller le 19e au 21e. Mais je suis restée sur l'actualité parce qu'elle me trouble, parce qu'elle m'habite, parce qu'elle m'occupe et parce que j'essaye de m'en détacher pour trouver quelque chose à quoi me tenir, une espèce d'ossature qui ne soit pas justement les variations de l'actualité.
Merci à toutes les deux pour cet échange autour de la littérature éternelle et actuelle. Alors je rappelle le titre de vos livres, L'Intimité, Alice Fernet, c'est paru chez Actes Sud, et puis Prudence et Passion, Christine Jordis, chez Albin Michel. On avait aussi quelques mots de Fanny Chesnel pour La Relève, paru chez Flammarion. Merci à Pierre-Henri Paget qui a réalisé l'émission. Merci à Stéphanie Gallet, à Stéphane Bataillon. Et merci à vous, Alice Fernet.
Merci
Christine Jordis. Au pied de la lettre,
merci.
C'est fini pour aujourd'hui. On peut réécouter l'émission sur le site www.rcf.fr. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous.